Cicia, 23 ans. Je suis de Vendée.
Donc Julie, 20 ans, de Chartres.
Louis, 22 ans, Tourangeau.
Quentin, 26 ans, Francilien.
Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous faites partie de l'école, alors l'IRFS, hein,
c'est ça.
Voilà. De Chambry-les-Tours. Est-ce que vous pouvez parler brièvement aussi de cette école? Rappeler aussi un peu son rôle, ce qu'on y trouve, les formations, etc.
Alors, c'est IRFS, ça veut dire Institut Régional de Formation en Sanitaire et Sociale. Donc, c'est la Croix-Rouge et c'est en gros une école pour plusieurs disciplines du milieu sanitaire et social, donc aide-soignant, cadre de santé, assistant de services sociaux.
Ergothérapeute,
infirmier du coup, hein, vu qu'on y est.
Oui, effectivement, vous êtes tous infirmiers du coup au sein de cette école.
Étudiant.
C'est ça, exactement.
Oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. Justement, alors, dans le cadre de vos études, vous êtes parti au Népal. Vous êtes revenu il y a 2 semaines, j'ai cru comprendre, c'est ça?
Ouais,
il y a à peine 2 semaines, pas trop dur le retour, on s'y fait
On s'y fait, mais un peu dur quand même.
Ah, un peu dur quand même.
C'était long.
Alors déjà, peut-être qu'on peut aussi commencer par là. Et nous expliquer pourquoi déjà avoir choisi le Népal. On vous avait posé la question déjà à l'époque, hein, évidemment, mais peut-être le redire brièvement. Et maintenant aussi, avec ce recul-là, est-ce que c'était un bon choix le Népal pour faire un stage infirmier?
Alors du coup, c'était entre autres pour la culture, parce que le Népal a une culture vraiment très diverse, parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration au fur et à mesure des temps d'Asie au final, et ce qui fait qu'on a une culture qui est à la fois hindouiste, à la fois bouddhiste, enfin c'est vraiment un melting pot d'un peu ce qui se fait en Asie.
Toi d'ailleurs, Louis, tu voulais absolument partir en Asie, il me semble, non?
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est partagé, c'est quelque chose qui est venu, qui a coulé de source un peu, ce choix de l'Asie ou pas?
Bah, c'était l'Asie ou l'Amérique du Sud, alors...
Alors du coup, il fallait faire un choix et c'est tombé sur l'Asie.
C'est ça.
On a fait plusieurs choix, en fait. Et c'est le choix. On a regardé plusieurs pays en Asie, on a essayé de se renseigner, et finalement, le Népal avait l'air le plus abordable aussi.
Alors du coup, avec le recul maintenant, est-ce que c'était un bon choix de faire un stage infirmier au Népal de 5 semaines, hein, on le rappelle à nos auditeurs? Est-ce que c'était, est-ce que vous ferez le même stage ou peut-être que vous choisiriez autre chose avec le recul?
Moi, je ferais le même stage. Parce qu'après, on peut se dire comme quoi qu'on n'a pas fait tant que ça de soins infirmiers, mais quand on compare avec les autres étudiants infirmiers qui sont partis, on s'en sort pas mal. Donc, je ferais le même stage, moi.
Ouais, pareil. C'est au niveau de tout l'environnement au final népalais que personnellement, j'ai beaucoup apprécié.
Quentin, je te voyais faire la moue tout à l'heure quand j'ai posé la question. Est-ce que toi, tu ferais différemment?
Je pense pas. Je pense que c'était un bon choix. C'est une expérience. Enfin, c'est une expérience à vivre intéressante. Après, c'est ce qu'on disait justement. On n'a pas fait énormément de soins. Après, de ce qu'on a vu des autres groupes, il y en a qui ont fait des choses, mais qui n'étaient pas intéressantes. Il y en a qui n'ont pas fait grand-chose. Finalement, on s'en sort bien. Mais c'est vrai que ce petit côté... Parce que en fait là-bas, ils font 3 ans d'études purement théoriques et après ils vont travailler. Et donc du coup, comme on était étudiants, pour eux on n'était pas diplômés, donc on pouvait pas faire grand chose. Et c'est vrai que ça c'était dommage. Et j'aurais voulu plus.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que évidemment si vous êtes là c'est pour parler un peu de ce que vous avez fait là-bas, ce qui s'est passé, etc. D'un point de vue infirmier, d'un point de vue professionnel, je dirais, comment ça s'est passé globalement? Alors, t'as commencé à répondre à la question un peu, Quentin, mais est-ce que vous pouvez élargir sur ce que vous avez fait, du coup, concrètement, comme soins, notamment là-bas au Népal? Qu'est-ce que vous avez bien fait là-bas?
Bah, on a fait un peu de tout. Enfin, on a fait ce qu'on appelle prendre les constantes des patients, donc tout ce qui est température, tension, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pour savoir si dans son état général il va bien. Après, on a fait des prises de sang, on a fait des soins assez occasionnels. Par exemple, moi j'ai fait un pansement, là-bas c'est à la bétadine, donc moi j'ai fait ça. Après, je sais qu'il y en a qui ont vu des ablations de points de suture. on a vu des choses très différentes parce qu'on n'était pas dans les mêmes services. En fait, il y en a qui étaient aux urgences et il y en a qui étaient en médecine générale. Du coup, on était séparés en deux groupes et on a tous vu des choses très différentes. Et je pense qu'on a vu plein de choses.
Alors, tu fais bien de le préciser, vous n'étiez pas dans le même service. Alors, qui a fait quoi un peu entre vous quatre? Et on le rappelle aussi, vous êtes cinq, c'est ça?
Ouais.
Quel est le petit poussé qui n'est pas là?
C'est Pierre.
C'est Pierre?
Ouais.
Il n'a pas voulu venir, on lui a fait peur ou...
Oui, c'est ça. Il est timide, il n'aime pas trop les micros, on va dire.
Non, ça peut se comprendre. Du coup, qui a fait quoi un peu là-bas au Népal et dans quel service?
Bah, du coup, on était séparés en deux groupes. Donc, j'étais avec Julie et Louis. Du coup, on a commencé en médecine générale. Et Quentin avec Pierre qui ont commencé aux urgences. Et au bout d'une semaine, on a alterné. On a changé de service. Donc, au final, on a vu les mêmes services, juste qu'on n'a pas eu les mêmes soins au même moment, en fait. Parce que du coup, autant les garçons, ils ont vu les ablations, autant nous, on a vu une réanimation cardiaque. Donc, après, du coup, on a vu le même service, mais pas les mêmes soins.
Ouais.
Quel ressenti vous avez par rapport au système de santé népalais? J'imagine que c'est très différent de la France.
C'est différent, mais enfin moi personnellement, je m'attendais à pire.
Ouais.
Disons d'accord. Que je pensais que c'était vraiment aux fraises au niveau des soins, que c'était vraiment de la démerde de ouf. Mais non, en fait, ils ont pas les mêmes façons de faire que nous. C'est un fait. Mais leurs règles d'hygiène, leur manière de faire en général, elles sont pas incohérentes en fait. C'est bien fait, on va dire, c'est bien fait. Il y a juste par exemple les pansements, on était un petit peu choqués parce qu'ils ont un protocole pour tous les pansements. En France, on a beaucoup de protocoles pour selon le type de plaie, le type de pansement qu'il faut mettre. Mais après, quand on y réfléchit, on se dit... Bah, c'est pas illogique parce que au final nous on a une accessibilité à des types de pansements vraiment très différents, mais c'est des pansements qui sont archi coûteux quoi, donc eux ils peuvent pas se permettre de pouvoir acheter ces pansements là quoi, donc ils sont obligés de se démerder avec leur protocole unique.
Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a pas forcément plus de mortalité ou plus d'infection, c'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de soigner finalement, et peut-être la façon de soigner à l'occidental n'est pas la seule non plus. Alors, en tout cas, une chose que je ne vous ai pas demandé, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est dans quelle structure vous avez soigné tout simplement? Est-ce que c'était un hôpital, un hospice? Qu'est-ce que c'était?
C'était un hôpital, ce qu'on pourrait appeler low cost. On était content parce que c'est un peu ce qu'on voulait voir. Hein. Si on était allé dans un hôpital comme chez nous, je veux dire... Ça sert à rien. Et juste pour à titre comparatif, il faut savoir que la moyenne à peu près du salaire, c'est 90 000 roupies. 100 roupies, c'est en gros 1 euro. Hein. Et là-bas, la nuit à l'hôtel, du coup, la nuit à l'hôpital, elle était à 9 dollars.
Ah oui, oui, parce que alors du coup, en France, on a la santé accessible à tout le monde et quasiment gratuitement. Hein, on va utiliser un peu des mots pour tempérer tout ça, mais là-bas, comment ça se passe? C'est aux frais de la personne qui se fait soigner?
C'est ça, c'est la poche de la personne et de la famille, en fait.
La famille est très présente, d'ailleurs.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Donc j'imagine que ça crée aussi des dissensions énormes entre les personnes qui peuvent se payer les soins et les autres.
Bah, cet hôpital, justement, c'est pour ceux qui peuvent pas trop se le payer.
Ouais.
J'ai vu des espèces de marchandages, parce que du coup, les patients viennent avec la famille... aux urgences, on leur dit voilà, vous êtes brûlé la main, il va falloir qu'on mette un pansement, il va falloir faire quelque chose, et la personne essaie de marchander, disons voilà, j'ai du papier cellophane, est-ce qu'on peut l'utiliser, ça coûtera moins cher. L'health assistance qui regarde le docteur, ils en discutent et ok, c'est bon, on va utiliser ton papier cellophane, et du coup ça fera moins cher. Et au final, voilà, ils ont fait des attelles, un petit garçon qui s'était cassé le poignet avec des cartons et des bandages parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer une attelle. Ils ont ramené un bras écharpe, ils ont refusé. Non, non, merci.
C'est un peu la débrouille, du coup, le système.
Bah, ça, c'est exactement ça.
Si on a des sous, non. Si on n'en a pas, ils s'arrangent pour le faire.
Évidemment, la barrière de la langue a sûrement posé problème. Et j'ai réécouté par curiosité l'émission qu'on avait fait à l'époque et vous aviez mentionné un interprète. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu un interprète pour vous aider ou pas?
Non, il y en a
pas. Alors non, pas du tout.
Un petit peu.
Alors,
du coup, on peut en parler.
Une demi-journée. Enfin,
c'est non, pas vraiment pas. Un interprète qu'on a eu, c'est plus un intermédiaire pour nous présenter à la structure. Après, on a eu la chance que les Népalais ont une grosse culture au final anglophone. Et très tôt, ils apprennent l'anglais. Et pour la plupart, ont quand même un assez bon niveau en anglais. Mais ça reste l'anglais. C'est-à-dire que en France, on a, nous, au contraire, pas spécialement un excellent niveau en anglais. Et du coup, il y avait quand même cette barrière, mais il y avait quand même moyen de se démerder parce que rien que les dossiers des patients étaient pas écrits en népali, mais étaient écrits en anglais. Donc rien que ça, on pouvait quand même noter les mots qu'on comprenait pas, enfin qu'on connaissait pas, tout du moins, qu'on comprenait mais qu'on connaissait pas, pour une fois arrivé à la maison, pour aller rechercher sur internet, quoi.
C'était pas trop dur quand même au niveau de la communication avec des patients, parce que c'est vrai que pour le coup, quand on est face à un malade, la communication c'est essentiel, parce que pour savoir déjà où il a mal, ne serait-ce que ça, c'est quand même important. Et puis après, c'est vrai, même en anglais, il y a aussi des mots techniques qu'on utilise dans la médecine qu'on maîtrise pas spécialement en anglais. Il faut aussi être honnête par rapport à ça. Est-ce que ça a pas été trop dur du coup au début, surtout pour soigner ces malades?
Si, du coup, ça a été assez compliqué auprès des patients, parce que la plupart ne parlaient pas anglais, ou en tout cas, ils avaient vraiment beaucoup de difficultés. Du coup, par exemple, pour faire une prise de sang, en général, en France, on prépare le matériel, on demande si ça va aller, s'il est prêt, on le prévient, on lui demande si ça fait mal, enfin, on lui parle en même temps pendant qu'on fait le soin. Bah, là-bas, c'était impossible. On y allait, et puis voilà. Après, on a appris 2-3 mots en népalais pour essayer de justement demander, par exemple, comment ça va en népalais, oui, non.
Comment ça se dit, comment allez-vous, ou comment ça va en népalais?
Texa.
Texa?
Texa.
Texa.
Ah oui, Texa. Texa, c'est ça, bien.
Namasté, c'est pas du népalais aussi?
Si, ça veut dire bonjour.
Ah bah voilà, alors, namasté, Texa. Ça veut dire bonjour, comment allez-vous, non?
Quetzao.
Ah, Quetzao. Ah,
oui, pardon, excuse-moi. C'est moi, autant pour moi.
Et la réponse non,
c'est... On va dire que c'est les micros comme ça. Et la réponse est...
Quetzao.
Quetzao. Oui, c'est comme ça va.
Tixa. Tixa.
Quetzao, c'est comment ça va. Tixao, c'est ça va.
Ok. Bon, bah, j'aurais appris trois mots de népalais. Du coup, pas... Oui, ouais, vas-y,
si je peux me permettre de revenir sur la question précédente. Il y avait aussi tout cet aspect de dialogue non-verbal. Et ça, ça va. Du coup, on était rodé avec. On arrive, on disait bonjour, namasté, parce que ça, on savait. Un petit sourire. On avait nos tenues pour préciser qu'on était étudiant infirmier. On avait un badge aussi qui avait écrit nursing volontaire. Mm-hmm. Du coup, on pouvait arriver, un sourire, on montrait les choses, et puis on pouvait quand même faire un petit peu. Et les gens étaient réceptifs à ça. Après, c'est vrai que instaurer un dialogue était plus dur. Mais on avait quand même cette base de non-verbal avec nous, de parler avec des gestes. Que ce soit à l'hôpital ou en dehors, mon niveau en anglais n'est pas forcément exceptionnel, mais j'ai pu me faire comprendre à chaque fois.
Comment sont vus les étudiants infirmiers ou les personnes qui sont en stage là-bas par la population locale et par les gens qui se font soigner? Est-ce que vous êtes globalement bien accueillis, bien vus, ou il y a peut-être parfois un peu des conflits ou des petites appréhensions de ces personnes là-bas?
On était plutôt bien accueillis. Après, ils étaient assez intrigués par nous. Ils demandaient souvent, parce que du coup il y a des agents de sécurité, ils demandaient souvent aux agents de sécurité qui on était, pourquoi on venait là. Et du coup après on était quand même bien accueillis, ils nous souriaient. Ouais.
Non, après ça va aussi avec leur mentalité, les Népalais sont quand même assez avenants au final. On a vu ça au cours de nos 5 semaines, c'est vrai qu'ils sont très accessibles et pour la plupart en tout cas très gentils, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas rencontré de problème, mais comme disait Laetitia, bon, ils sont intrigués par les occidentaux, notamment une petite anecdote. On avait été dans un zoo et on avait croisé donc une famille de Népalais, et ils ont demandé à prendre des photos avec nous, comme ils prenaient des photos avec les animaux, quoi.
C'est rare encore là-bas au Népal des occidentaux qui vont, des touristes ou...
Bah, j'ai pas eu l'impression, j'ai quand même vu pas mal de touristes, moi. Bon, après, c'est pas.
Dans les zones touristiques, il y avait énormément d'occidentaux.
Évidemment, oui.
Voilà. Mais il y en avait quand même toujours un ou deux qui traînaient. Je sais pas.
Une autre anecdote à raconter? Non? Ah, je suis sûr que vous en avez une, au moins une autre. Allez, en 5 semaines, il vous est pas arrivé que ça au Népal quand même.
Si.
Après, que ça ?
Non, il nous arrivait plein de choses, mais après, quoi dire ?
Est-ce qu'il n'y a pas une petite anecdote que vous pouvez nous raconter ?
Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait ? C'est ça la question.
Qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Qu'est-ce qu'on ose dire ?
Qu'est-ce que vous osez dire ? Qui rentre...
Non, mais on peut par contre parler de... D'une fois, on était, enfin, c'était dans les premiers jours, hein, on était à Katmandou. On se baladait dans la rue principale pour visiter, en fait. Puis là, on a vu un magasin de kukri, donc qui est une spécialité népalaise, un couteau népalais au final. C'est une arme blanche spéciale du Népal. Et Pierre connaissait donc ses couteaux et était intéressé pour en acheter un. Et du coup, on s'est présenté à la boutique juste pour se renseigner. Et donc le vendeur, donc Ashok, nous a reçu et nous a expliqué de A à Z donc d'où venait le kukri et les différents stades du kukri. Et en fait, on a senti qu'il était passionné par son travail. Et au final, on n'a pas acheté tout de suite de kukri, mais on a été le voir presque toutes les, enfin même toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, juste pour discuter avec lui, juste pour bah voilà, pour faire la causette, quoi.
Ouais.
Et au fur et à mesure, c'est vraiment devenu un ami, quoi.
Ouais.
Il est sorti avec nous, enfin c'est aussi ça, les Népalais, c'est, ils sont très accessibles au final
et très chaleureux aussi, du coup, j'imagine.
Très chaleureux, ouais. Enfin, de mon avis en tout cas. Après, je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé la mentalité népalaise.
Alors, c'est l'heure du quiz avec nos 4 étudiants infirmiers qui sont partis au Népal pendant 5 semaines pour un stage infirmier de l'école. Alors, il faut que je le répète, l'IRFS, c'est ça ? Alors, si je mets pas vos micros, ça risque de pas fonctionner. De Chambry-les-Tours, je le précise. Mais d'abord, avant le quiz, Quentin, je crois que tu avais quelque chose à nous dire à propos de bébé, non ?
Ah.
Est-ce que tu peux nous parler de ça brièvement ?
En fait, on a donc les premières semaines, on a resté aux urgences et en médecine générale, et après on a pu switcher un petit peu, se promener, voir des choses. Et il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'est qu'on a pu quand même aller voir les prématurés. Les prématurés, ça a duré un quart d'heure. Après, pour vous, je sais pas. Mais
5 minutes, moi.
D'accord. C'était quand même incroyable. Bon, il y en avait 2, hein, mais c'était des tout petits bébés. Et c'est vrai que ça, j'ai pas eu cette chance de le voir encore en France. Et c'était incroyable. Et c'est ce que je disais, c'est quasiment comme chez nous, hein, les machines, tout ça. Et c'était quand même, je pense, enfin, une expérience forte.
Et ça t'a marqué, en tout cas. C'est ce que tu retiens, en tout cas, une des choses que tu retiens.
Tout à fait. C'était.
Eh bien, c'est le quiz. C'est l'heure du quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je propose qu'on fasse fille garçon. Là, vous êtes bien, bien dans le studio comme ça. On fait fille contre garçon, non ? Vous êtes d'accord ?
Ouais,
alors, ça marche.
Je mets un petit jingle et je vous pose quelques petites questions sur le Népal, évidemment. Hein. C'est parti. Première question. Combien d'habitants peuplent le Népal ?
Ça commence bien.
Ça, on l'avait fait dans le rapport qu'on avait fait au début.
Oui,
ouais, mais je me rappelle plus.
Qui s'en souvient ?
Ou alors un ordre d'idée, hein, c'est le plus proche qui va gagner, hein, de toute façon.
1 500 000
1 500 000 pour les filles, dernier mot ?
Dans le Népal en entier ?
Ouais.
Ah oui, dans le Népal entier, non, je précise.
Mais carrément plus, je pense.
Mais je sais pas.
On s'en fiche, on a juste dire un tout petit peu au-dessus,
non, comme
ça on a
gagné. Non, on n'a pas dit dernier mot. On peut changer.
On a tout.
Non, c'est validé.
Alors du coup, les garçons, est-ce que vous avez une idée ou pas ?
Les garçons d'abord, ouais, et on va.
Les garçons. Donnez votre réponse.
Pas forcément.
C'est entre 1 million et 100 millions. Voilà, je vous donne un petit ordre d'idée.
Ah, oui, merci.
C'est large, hein, mais. Ouais.
Entre 1 million
moi,
et 100 millions.
Ah oui.
Je trouve ça sonne bien, 39
non, mais...
millions.
Non, mais ça va pas.
39 millions ?
Non.
Ça, moi, je trouve ça
sonne bien. Ah, c'est dur, hein.
Alors...
C'est grand, le Népal. Hein.
39
millions. Alors, du coup, une réponse. Dirais... Il me faut vas-y, une vas-y, réponse. Vas-y. Alors, les garçons.
Alors
35 millions.
35 millions pour les garçons. 39. Et vous, les filles ?
Moi aussi.
39.
Eh bien, un point pour les garçons.
Ah non.
Puisque la population du Népal en 2016, bon, j'imagine ça n'a pas énormément bougé d'ici là, 29 millions 33 914, très précisément. 29 millions, quand même, c'est un bon petit pays. Hein.
Ouais.
Deuxième question, très dur. enfin, ou pas d'ailleurs, qui est la présidente du Népal?
Ah putain. On sait qu'elle fait des tikas. On l'a pas rencontré en personne. Mais. Non,
je sais pas.
Elle s'appelle Bidia Devi Bhandari. J'ai peur de mal prononcer, voilà. Mais voilà, c'est la présidente du Népal qui est présidente de la République. C'est une République depuis 2015.
C'est ça.
Bon, alors du coup, toujours un zéro pour les garçons.
Il faut qu'on se réveille.
Troisième question, c'est un vrai ou faux? Le Népal possède 8 montagnes parmi les 10 plus hautes du monde. Vrai ou faux?
Ouais.
Vrai pour les garçons, pour les filles? Vrai ou faux?
Bon, on va dire faux.
Faux? Eh bien, c'est vrai. 2-0 pour les garçons. Le Népal possède 8 des 10 plus hautes montagnes
déjà,
du monde.
Déjà, il y a l'Everest.
Et il y a l'Everest qui
délimite... Oui, je savais, mais ça fait une...
Qui délimite la frontière avec
Des montagnes de 8 km.
Bon, on sait jamais.
Bon, en tout cas, ça fait 2-0 pour les garçons. Hein. Ils ont fait le trou. Quatrième question. Combien d'ethnies composent le pays?
Oh.
Car le Népal est un pays d'ethnies. Je l'ai appris tout à l'heure en fouillant un peu sur Internet. Combien d'ethnies, à votre avis, compose ce pays-là?
Oh, ils avaient pas...
Un ordre d'idée Le pareil, hein, s'il n'y a pas le chiffre exact, évidemment, de toute façon, il est assez 39. Dur à trouver.
Ouais, vendu.
Elle est 49.
49 pour les garçons et pour les filles.
Non, c'est fragile, c'est...
49 pour les garçons et vous, les filles.
Ah non, vas-y. On a dit au moins 3. Au moins 3.
Au moins 3,
c'est...
c'est assez loin, donc c'est pour ça que je me méfie.
Alors, 49 pour les garçons et vous?
On va dire 30. Comme ça, on se rapproche.
Elle a dit 3.
30.
3, c'est bien.
Ouais.
Eh bien, c'est 60. Donc, c'est encore les garçons qui sont plus proches. Et pour être un peu plus précis, l'ethnie la plus importante, qui regroupe 17% de la population, s'appelle Kshetri. Et dans le langage là-bas, Kshatriya. Bon, évidemment, je parle pas de népalais. Mais voilà, c'est le groupe le plus important de la population, en tout cas l'ethnie la plus importante. Donc, environ 60 ethnies. 3-0, ça commence à être sévère là le score. C'est la dernière question.
Laissez-nous marquer les mecs.
Non. D'ailleurs, tu as évoqué la réponse plus ou moins tout à l'heure, Quentin. À 1 euro égale combien de roupies?
120. Là, 120.
Le plus proche gagne.
Non, 120 roupies, c'est 1 euro.
Attention.
Ça dépend.
Je parle, j'ai regardé le taux de change tout à l'heure. Hein.
123.
123 pour les garçons?
Pour moi, après.
Bah non, t'as parlé pour les garçons.
123, allez.
123.
Tu t'y aurais dit combien?
Et pour les filles? Hein,
combien? Vas-y. 120.
Et... Ah, 120, bah c'est les filles qui gagnent.
Tu vois, c'est 120.
121,08 tout à l'heure. Alors ça a peut-être changé depuis que... Mais bon, il fallait bien se baser sur...
Le taux de change, on le connaissait relativement bien parce que là-bas, il fonctionne pas par carte, il fonctionne que par cash.
Ah ouais.
Donc il fallait savoir combien on dépensait en euros, en fait.
Ouais.
Et, ils ont beaucoup de taux de change.
Et j'imagine c'est la première chose aussi qu'on apprend en arrivant dans un pays aussi, parce que c'est la base, étant donné qu'ils n'ont pas la même monnaie. La roupie népalaise, c'est ça la monnaie?
Le roupie, ouais.
Le roupie, pardon. 3-1. Bon, bah voilà, les... Quentin et Louis ont remporté ce quiz.
Vous payez votre verre?
Non.
Ouais, je suis pour.
Alors du coup, est-ce qu'on peut continuer sur le Népal, justement? Ça fait une bonne transition, ce quiz, puisque ce pays, on le connaît pas très bien. Bon, vous, maintenant, vous le connaissez plutôt bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des coutumes, des habitudes, de ce qui vous a plu aussi un peu là-bas, voilà, de la vie sur place? Sans compter le monde professionnel, le monde infirmier, le monde de la santé, hein, évidemment.
Il y a des choses intéressantes et il y a des choses qui le sont moins, on va dire. Je vais partir sur le négatif pour finir sur du positif. Je préfère finir sur du positif. C'est par exemple au niveau... Donc du coup, ce qu'on disait, il y a de la pollution, il y a de la poussière, il y en a beaucoup, surtout dans la capitale. Mm. J'ai l'impression aussi que pour eux, le monde est une poubelle. Au niveau des rues, au niveau des rivières, ils jettent leurs déchets et c'est vrai que ça, c'est dommage. Après... ils n'ont pas de poubelles à disposition, ils n'ont pas de... Ils ont des décharges à même la rue, en fait.
À ciel ouvert, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est même genre... On tourne et hop, il y a une décharge. Avec, ils brûlent, du coup, leurs déchets aussi. Ils allument leurs poubelles. Hein.
Juste, Quentin, si je peux me permettre, ils ont un ramassage des ordures. Alors, c'est très drôle à voir parce que...
J'ai pas vu.
c'est des espèces de... de tracteurs, en gros c'est des moteurs de tracteurs avec des roues, mais c'est du système D, hein. C'est genre ils ont chopé le truc dans une déchetterie et ils t'ont rafistolé ça à la MacGyver, et c'est ça en fait qui passe dans les rues pour ramasser les poubelles, je pense que c'est une fois par semaine.
C'était très tôt le matin qu'on l'avait vu.
Ouais. Et si, ils ont, du coup ils ont ramassé les poubelles, mais c'est très discret, c'est vraiment la nique, quoi.
Pour le coup, pour rebondir aussi là-dessus, le Népal, on l'a dit, 8 sommets sur les 10 plus hauts de la planète. Il y a aussi beaucoup d'alpinisme, en tout cas du tourisme d'alpinisme. Ouais. Et pour le coup, eux, je sais qu'ils polluent beaucoup parce que tout ce qui monte en fait là-haut, ça reste là-haut. Donc tente, sac de couchage, etc. Tout reste là-haut. Donc les montagnes, pour beaucoup, en tout cas, le sont de plus en plus, sont extrêmement polluées là-haut au Népal. Bon, évidemment, vous y êtes peut-être pas allé à 8000 mètres d'altitude.
Non.
Ça nécessite.
On aurait bien aimé, mais bon, ouais. On n'avait pas le temps.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette culture népalaise? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Est-ce qu'il y a des rites un peu? Est-ce que comment ça se passe un peu là-bas, la vie au Népal? Est-ce qu'ils ont la même façon de fonctionner? Ça commence tôt.
Ouais. En fait, du coup, avec les montagnes, le soleil se couche très vite. Genre à 17h30, le soleil était couché, quoi. C'est très déroutant, mais le truc c'est que à côté, bah vers 6h, ils sont pour la plupart levés en fait. C'est c'est ça, c'est ils ont un rythme vraiment décalé par rapport à notre. Ouais.
Ah, c'est peut-être nous qui sommes décalés.
Oui, non mais oui, je veux dire en comparaison.
Est-ce qu'ils sont aussi pris par le temps comme nous? Est-ce que ils ont cette notion de temps, il faut être à l'heure, faut être ponctuel, faut être non,
c'est pas le moins du monde.
Ouais. Ils sont très détendus, ouais. Ils prennent leur temps.
Ça veut pas dire qu'ils arrivent en retard.
Non.
On a croisé, ils sont ponctuels, mais pas.
On en a croisé un qu'on aimait beaucoup en stage, et on a discuté avec lui, et il nous a dit, mais non, mais moi j'embauche dans une heure. Et en fait, il est venu décontracté pour parler avec ses collègues parce que voilà, il avait envie. Mais du coup, ça veut pas dire qu'il y va tranquillement, mais. Il était bien à l'heure même. Hein.
Au niveau du niveau dit, comment ça se passe un peu? Comment vivent les gens là-bas? J'imagine évidemment que c'est un peu plus pauvre qu'en Occident. Mais comment ils font les gens là-bas sur place? Est-ce que, on l'a dit, c'est un système de débrouille pour plusieurs choses, les ordures, etc. Mais pour le reste,
il y a des petits magasins partout. Il y a ce qu'on pourrait appeler des grands magasins qui seraient des
Marts, des Walmart,
des petits chez nous. Mais il faut savoir que après nous on était un peu excentrés, mais il y avait énormément, en fait il y avait des magasins de tout. Il y avait un mec qui réparait des chaussures, il y avait de l'électronique, il y avait un coiffeur, il y avait dans des petits boui-boui, et il y en a par des pharmacies. Il y avait une rue où il y avait genre trois pharmacies d'un côté, deux de l'autre, enfin c'était impressionnant. Et il y a énormément ce côté petit commerce partout en fait.
Tu parles de Katmandou, là, ou de...
De Katmandou.
De Katmandou. Ouais. C'est la capitale, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ça aurait pu être dans le quiz, ça.
Ouais.
C'est vrai.
J'espérais, d'ailleurs. Je me suis dit un point gratuit.
Ça va faire un point gratuit, mais... est-ce que... Alors, je te vois avec un tatouage, et je crois en avoir aperçu un aussi sur ton bras. Est-ce que c'est des choses que vous vous êtes fait faire au Népal? Ouais. Parce que souvent, les gens aiment bien garder une trace de leur voyage.
Exactement. Alors, on est trois à s'être fait tatouer là-bas au Népal.
Et pour quelle raison? Pour symboliser un peu et pour garder un souvenir de ce stage.
Ouais
c'est ça, du stage et en général de du Népal, ouais.
Du Népal.
Ouais.
La suite maintenant, je pense qu'on peut conclure là-dessus puisque vous avez fait un stage là-bas de 5 semaines, on le rappelle. Maintenant, j'imagine que ça vous a donné des idées pour la suite, pour une orientation peut-être professionnelle, ou d'ailleurs peut-être ça vous a dégoûté même du métier d'infirmier, je sais pas moi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que va être la suite pour vous personnellement?
Bah pour moi, pour ma part, je pense que plus tard je ferai de l'humanitaire du coup. Je pense que le fait de voyager comme ça...
Ça t'a donné envie?
Ouais, totalement. Donc du coup ça m'a pas du tout dégoûté du métier d'infirmier. Hein,
Julie?
Bah moi, ça m'a beaucoup plu. Après, de l'humanitaire, je sais pas. Mais je sais que ça m'a beaucoup plu d'être à l'étranger. Après, à voir. Infirmière toujours, par contre. Peut-être pas de regret, toujours infirmière. Donc, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé.
Les garçons?
Bah moi, ça m'a traversé l'esprit d'aller même bosser là-bas au Népal. Le problème, c'est que petit détail qui a son importance.
C'est vrai, on l'a pas dit,
c'est vrai. Le métier d'infirmier au Népal est réservé aux femmes. Il n'y a aucun homme infirmier, il est interdit aux hommes.
Ah, c'est intéressant ça.
Ce qui fait que, bah, du coup, je peux pas. Mais ça m'a quand même.
Et pour quelle raison il est interdit aux hommes?
C'est dans leur
C'est culturel. Ouais, c'est culturel.
Et alors, du coup, j'en reviens à la question de tout à l'heure, mais vous, en tant qu'homme, vous avez été.
C'était dur.
C'était compliqué.
Mal vu parfois, peut-être aussi, non?
Pas mal vu, mais ignoré.
Il y avait cette notion de pudeur aussi avec les patients.
Ok.
Plusieurs fois, moi, je suis resté parce qu'on pouvait pas y aller, parce qu'ils fermaient les rideaux. Mmh. Alors qu'en France, on n'a pas ce problème.
Mmh. Ok. toi, Quentin, quel est ton bilan et puis la suite un peu?
Moi, j'avais déjà pensé à faire de l'humanitaire et j'espérais en fait que ce stage appuierait ça. Et du coup, ça l'a fait. Et je pensais me faire un bagage en fait avant. Et après, j'irai me renseigner pour entrer à Médecins Sans Frontières.